nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Et chez le papetier, son mari. Vous savez? Et oui, il n'en sortait plus avec ses trois maîtresses. Demande comment? Son père faisait avec cinq. Fallait garder un certain standing, mais tout de même. Voici dans son bureau. Il a fini son petit déjeuner. Il est 10h30. Il ne sait que il se fait les ongles. Que va-t-il faire jusqu'à 13h? La sonnerie téléphone retentit. Il décroche. Allô? C'est Gigi. Comment vas-tu, mon coco?
Mon coco, Gigi, lui qui déteste les petits noms vulgaires. Mais qu'est-ce qu'il fout avec cette fille? Elle est idiote, vulgaire. Oui, elle a 22 ans, mais tout de même. Quel métier! Il faut même avoir des maîtresses. Les ouvriers chez Renault ne sont pas obligés d'en avoir une. Elle parle. J'ai bien envie d'en cracher.
Il ouvre une petite boîte qui se trouve en face de lui.
prend un chocolat et le mange. Enfin, elle a fini. Quelle heure est-il ?
11 heures.
Bien. En attendant d'aller manger chez Félix,
je vais dépouiller mon courrier.
Il quitte son bureau pour aller voir sa maîtresse. À 20 h, il entre chez lui. La femme l'attend tout excitée, car elle reçoit ce soir. Il n'aura pas le temps de dîner, et pourtant il a faim. Tant pis, il boira un verre de lait.
Ah, les ouvriers chez Renault, en rentrant chez eux, ils peuvent dîner, eux au moins, et se détendre. Mais moi, à 20 h, il faut que je m'habille, mettre des souliers vernis qui me font mal.
De toute petite bulle, un léger pétillement.
Nicole m'a dit que c'était grâce à vous si elle allait mieux.
Oh, ma foi,
je... Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que nous devons faire d'elle maintenant.
Comment ?
Et me voilà, au milieu de ce monde.
Vous avez connu à Paris.
De tout
oui,
ce monde.
Mais quand est-ce?
Tiens, mais quels sont ces deux-là en costume clair? Je vais le demander à ma femme.
De qui parles-tu, mon ami? Ces deux-là? Oh, mon Dieu! Mais je ne les avais pas vus. Je suis sûr que ce doit être une farce de notre fils. Il en serait bien capable. Tiens, le voilà. Charles, Charles, viens, tout de suite, une minute.
Charles est un jeune homme, grand, mince, bien, le visage fin, très beau. Il ressortait de lui, de son être, une certaine grandeur, ou plutôt une certaine noblesse. Il ne ressemblait ni à sa mère, ni à son père, mais plutôt à l'amant que sa mère avait eu à Deauville il y a de cela 21 ans.
Non merci, mes amis m'attendent.
Non mère, je ne connais pas ces deux jeunes gens. Je vais tout de même m'en assurer. Marc et Florent étaient au buffet, en train de se servir une marmelade. Bonjour, qui êtes-vous?
Je
Marc se retourne et lui dit : Et vous ?
Je suis le fils présumé et officiel de la maison.
Nous, nous sommes des invités bénévoles. Nous avions faim et nous sommes rentrés. Voilà. Ah bon ? Vous n'avez pas d'argent ? Vous venez d'où ? Où allez-vous ? Ce sera un peu long à vous expliquer. Pour ce qui est de l'argent, nous n'en avons pas. Et nous n'en voulons pas.
Ça va avec la musique ?
Charles lui dit : Bon, eh bien, vous devez certainement pas savoir où dormir ce soir. Après la soirée, nous monterons dans ma chambre. C'est de là intéressait Charles, car il aimait l'aventure, l'humour. Et puis, ces deux jeunes garçons étaient pas trop mal de leur personne.
Ça, je ne me le rappelle pas.
Après la soirée, en cachette de ses parents, il les monta dans sa chambre.
Entrez. C'était une chambre assez grande, propre, nette. Il y avait un lit à deux places, car Charles aimait prendre ses aises. « Vous désirez boire quelque chose ?»« Non, merci, » dit Marc. « Comment vous appelez-vous »« Nous n'avons pas de nom, » dit Florent. Marc dit : « Oui, il faut que nous vous expliquions tout ceci. Voilà, nous avons décidé, c'est de vivre en dehors du monde, au-delà du monde. Nous n'appartenons plus à l'espèce humaine. Ce qui fait que nous vivons sans loi ni foi. La morale, les lois, tout ceci n'existe plus pour nous. Nous refusons toutes les obligations de la société, pas de nationalité, pas d'argent. Pour ce qui est du langage, nous ne parlons que très peu. Voilà en gros ce que nous sommes. Nous voulons appartenir à personne, n'avoir ni famille, ni patrie, ni foi, ni loi. Nous vivons d'instinct. Charles lui dit : Bon, eh bien, il va falloir dormir, car demain matin, il faudra que vous vous leviez tôt. Et il se déshabille. Et se couche. Ils se couchent tous les trois dans le même lit. Cela n'empêche pas Marc et Florent de bien dormir. Charles couchait d'habitude avec un pyjama, et ce soir-là, il se couchait sans, car il aimait se faire admirer. Charles paraissait plus jeune que son âge. Il avait un visage angélique, et puis de tout son corps, qui pourtant était grand, il en ressortait une grande délicatesse presque féminine.
Il aimait s'occuper de son corps, passer des heures dans la salle de bain. Il venait de se fiancer à Mademoiselle La Flore du Pin. Elle avait 18 ans et surtout l'aimait à la folie. Lui était surtout fier de se sentir aimé. Un matin, Charles souhaitait faire connaître à ses amis M. de Janjus. Charles avait connu M. de Janjus à un concert. Il venait d'avoir 16 ans et M. de Janjus 30. Ils avaient tout de suite sympathisé. Ils s'étaient rendus compte, tous les deux, qu'ils avaient les mêmes goûts. Ils aimaient mutuellement la musique, la montagne, la recherche de Gérard. Mais ce qui attirait Charles, c'était surtout que M. de Janjus recherchait dans la vie une certaine pureté, une certaine grandeur. Pendant que nos trois héros se rendent chez M. de Janjus, parlons un peu de la jeunesse de Charles, ou plutôt de son enfance. Charles a eu une enfance très solitaire. Entre sa mère et ses parents, ses domestiques, son père et ses affaires, il était fils unique et avait jusqu'à 10 ans un précepteur. Il ne savait pas jouer avec ses enfants, avec les enfants de son âge. Il aimait passer pendant des heures, assis en tailleur sur le parquet, entouré de petits camions. Il se racontait pendant des heures des histoires dans sa chambre. Une de ces histoires qu'il se racontait était celle d'une famille de milliardaires qui possédait des camions. Pendant 3 ans, il se racontait l'histoire de cette famille et faisait rouler ses petits camions autour de lui. Cette famille, qui était très riche, passait son temps à rechercher et à acquérir le plus de richesses possible. Charles était un rêveur, mais un rêveur qui ne connaissait pas la poésie. Il ne voyait que la vie pratique, que le pratique de la vie. Mais inconsciemment, il en souffrait beaucoup, car malgré lui, il recherchait dans la vie une certaine pureté, un certain idéal, une certaine grandeur. Ce grand idéal, il se forçait à le trouver dans la façon et les moyens d'accumuler des richesses. Charles vivait seul, toujours seul. À force de vivre seul, et comme il faut forcément porter son affection sur quelque chose, Charles portait son affection sur lui-même. Il passait des heures à se regarder dans la glace, à s'adresser, à se contempler. Il aimait son corps, le corps à la peau si douce, si délicate. Sa personnalité s'était divisée en deux personnages. L'un était lui et l'autre le spectateur. Il jouait dans sa chambre, il parlait seul. C'était pour l'autre, le spectateur. Il se regardait, il s'entendait vivre. Il devenait l'acteur qui jouait la vie de Charles. Et il était le spectateur qui regardait la vie de Charles. Mais, parce qu'il était un acteur qui jouait la vie de Charles, ce n'était pas vivre la vie de Charles, la propre vie de Charles. Donc, Charles ne vivait pas. Il n'avait pas de vie propre, puisque sa vie était de jouer un personnage et de se regarder jouer. Un jour, qui s'ennuyait, il prit par hasard un livre dans la bibliothèque. Ce livre était un livre très ancien. Il se nommait « Le manuscrit des miracles de Notre-Dame ». Il ouvrit le livre au hasard et tombait sur une gravure colorée intitulée « Maria salue la Vierge, une reine en prière devant la Vierge ». Charles, pour la première fois de sa vie, fut séduit, ébloui par une œuvre d'art. Lorsque ses yeux se portèrent dans la gravure, son corps battit très fort. Il en eut chaud à la tête. Sa gorge se serrait et eut envie de se pleurer. Une étrange sensation de grandeur et de bien-être s'empara de lui. Il se sentit léger. Il semblait planer. Le monde n'existait plus. Il n'y avait que la gravure et lui. Il venait de rencontrer la beauté. Un monde nouveau s'ouvrait pour lui, celui de la recherche, de la beauté, de la pureté, du beau. Un monde nouveau s'ouvrait pour lui, celui de l'art. Au bout d'un moment, il eut envie de mourir, car il se disait qu'il ne pouvait plus supporter de vivre maintenant qu'il avait vu la perfection. Il prit le livre et l'emmena dans sa chambre. désormais, chaque matin, il ouvrait le livre et contemplait la gravure. L'art venait de faire un miracle. Pour la première fois de sa vie, Charles aimait autre chose que lui-même. Il venait d'avoir 15 ans. Je ne m'en vais pas vous décrire cette gravure, cher lecteur, quoique je l'ai sous les yeux en une reproduction sous forme de carte postale distribuée par Terre des Hommes. Mais si vous désirez la voir, il vous suffit d'aller à la Bibliothèque nationale et de demander le manuscrit des miracles de Notre-Dame. À partir de ce jour, Charles allait tous les après-midi dans les musées pour y rechercher la sensation du beau. Les tableaux, les gravures qu'il aimait le plus étaient ceux du XIe siècle. Certes, il eut de grandes sensations, mais cela n'égala jamais celle qu'il avait eue en voyant sa gravure. Charles ne voyait le beau que dans un tableau, une gravure. Il ne voyait pas le beau ailleurs. Il ne savait pas reconnaître la beauté dans la vie, ni dans un vrai paysage, ni dans un vrai visage de jeune fille ne lui représentait la beauté. Pour lui, le monde n'était pas. Il ne se rendait pas compte que les sujets des tableaux qu'il admirait décrivait des modèles trouvés dans la vie réelle. Même un sujet irréel, pour le représenter, l'on se base sur une chose réelle. Par exemple, pour peindre un visage d'ange, on prend pour modèle un visage humain. L'art, les arts pour s'exprimer, même si le sujet est irréel, se base sur la vie. Même l'écrivain se base sur le réel pour s'exprimer, même si ce qu'il veut représenter ne l'est pas. Pour construire son histoire, il se sert de mots, et ces mots sont déjà existants dans la vie. Il représente et définit quelque chose que les gens connaissent déjà. C'est la seule façon de se faire comprendre que d'employer des mots, des signes, des sons qui ont déjà une signification pour les autres, sauf bien sûr pour les œuvres abstraites. Là, l'artiste exprime des sensations pures, sans but. Mais enfin, cela suffit pour ce sujet. Malgré la recherche du beau, sa vie n'avait pas changé. Vous écrivez par exemple, il continuait à s'aimer lui-même. Au lycée, il n'avait que très peu de rapports avec ses camarades,
allez, votre place.
Les professeurs. Il s'isolait. Ce qui l'intéressait les jeunes de son âge ne l'intéressait pas, ou plutôt le troublait.
12.
Car il se sentait pas comme les autres. Les autres aimaient rire, chahuter, faire des sports. Lui aimait la solitude, le calme. Il aimait rester dans ses pensées. Il avait des difficultés à suivre les cours. Son imagination se trouvait hors du lycée. Il n'aimait que les sujets futiles. Les sujets des leçons ne pouvaient pas l'intéresser, ne pouvaient pas intéresser un être comme lui. Ses professeurs le considéraient comme un élève rêveur et paresseux. À 16 ans, il ne connaissait pas les filles. Quelquefois, il entendait un camarade parler de ce sujet devant lui. Il ne savait pas pourquoi, mais ça le troublait beaucoup. Il croyait que son trouble provenait de la honte, de son ignorance. Pour lui, les mots n'avaient pas de pudeur. Seule la honte de ne pas savoir le sens de ce que signifiaient les mots le troublait beaucoup. Comme il ne connaissait et aimait son propre corps, il avait eu certaines sensations solitaires avec son corps. Il recherchait dans cette seule expérience la définition de certains mots. Cela ne tombait pas toujours juste. Ce qui fait qu'à 16 ans, il ne connaissait pas grand-chose ou très peu, ou le peu qu'il croyait savoir sur ce sujet était assez loin de la réalité.
On joue les terreurs. Salaud l'aviron. En garde l'aviron. Lâche, traître, félon. C'est moi, Négus, le chevalier noir. Protecteur des faibles et des orphelins.
Allez, Négus.
Arrière, Morico. Je suis Richard Cœur de Lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te bouter hors de Jérusalem. Sarrasin infidèle. Fils de chienne.
Allah et Dieu et Mahomet sont prophètes. Titre, mon ami, quel lion, tête et la peau de vache, petite poule.
Allez, l'aviron.
Un soir, son père lui ordonna d'aller à un concert. Charles alla à son concert sans grand enthousiasme. Chose rare pour un solitaire, la musique ne l'avait à peine effleuré. Charles arriva en avance. S'assit dans les rangs du milieu. À sa droite se trouvait un homme d'une trentaine d'années. Il était grand, mince, presque maigre. Il portait un élégant costume smoking noir. Son visage reflétait la pureté et une certaine élégance. On jouait ce soir-là, en première partie, la valse de Ravel. Jeanne ne connaissait pas cette œuvre. Lorsque l'orchestre entama les premières musiques, Charles fut surpris, irrité, et avait l'impression de recevoir par bride la musique, de ne pas pouvoir l'attraper, l'accrocher, accrocher les sons. Cela l'irrita beaucoup. Et puis, au bout de quelques minutes, son oreille s'apprivoisa, ou plutôt apprivoisa les sons qui semblaient se faufiler, couler, avant d'atteindre le tympan de l'oreille. Tout à coup, il sentit son corps envahir par la musique, ou plutôt par ce je ne sais quoi d'indéfinissable, d'impersonnel, qui semblait représenter la musique. Il fut troublé. Ce trouble était mêlé de froid et d'angoisse tout à la fois. Il ne savait plus où il en était. Il voulait rire et pleurer tout à la fois. Il avait envie de valser et à la fois, il y avait dans la musique ce quelque chose qui fait que vous empêche de vouloir valser, de pouvoir valser. Dans cette valse, il y a quelque chose d'angoissant. D'envahissant. Lorsque l'on l'écoute, on a l'impression d'être ivre, ou plutôt que la musique nous a drogués. Charles était assis sur sa chaise droite, raide. Il ne bougeait pas, mais l'on sentait en lui un trouble, une fièvre. Son visage, ses mains étaient blancs. Pâle comme du marbre. Ceci le rendait encore plus beau. Le monsieur qui se trouvait à la droite de Charles machinalement se tourna de son côté. Il fut surpris par la beauté du profil de Charles. Sa pâleur rendait son visage lumineux, irréel. Le monsieur fut ébloui. Il avait l'impression de contempler un buste grec qui représentait la tête de la Franciala d'Angelo qu'il avait vu à Rome au Musée National. Cela le troubla beaucoup de comparer le visage de ce jeune homme avec un visage féminin. Ce beau visage semblait si ému, si envahi par la musique qu'il en fut ému. De peur de le troubler, le jeune homme, il n'osa pas le regarder trop longtemps. Thank you. Lorsque l'œuvre fut finie, Charles eut l'impression de sortir d'un rêve. Son corps fut envahi par une grande tristesse. Ses yeux se mouillèrent. Il eut toutes les peines du monde à revenir à la réalité. Ce n'était qu'un léger bruit qui le fit sursauter. Il venait de faire tomber son programme qu'il tenait à la main. Il voulait se baisser pour le ramasser, et comme ses membres étaient encore engourdis, il le fit avec beaucoup de difficulté. Le monsieur d'à côté, souriant, vit la chose, le ramassa et le lui tendit. Charles se troubla. Le monsieur lui dit « Vous semblez troublé, ému. » Charles rougissait. C'était la première fois qu'un inconnu lui parlait. « N'ayez pas honte. C'est normal d'être troublé, ému, lorsqu'on est dans un concert. Cela vous a-t-il plu au moins ?» Le monsieur sourit. Et ce sourire semblait si bon que Charles fut moins troublé. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir été envahi par quelque chose d'étrange, d'indéfinissable. Oui, je comprends. La valse de Ravel a un côté qui trouble, enivre. En même temps. Oui, en même temps. Chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'être, de voir un homme dans une salle de bal. Il est ivre. Il ne peut pas. Se déplacer. Il se sent trimballé, bercé par la musique qui l'envahit. Cette musique qu'il entend d'une façon confuse. Imprécise. Il est poussé, tiré par cette musique et aussi les gens qui l'entourent. Tout tourne autour de lui. La salle de bal, pour lui, se trouve comme dans un bateau. Oui, comme dans un bateau. Un bateau dans la tempête, un bateau ivre. En marchant, il a des difficultés à trouver son équilibre. Le plancher semble bouger sous ses pas. Il n'ose pas regarder les lustres du plafond. Ça lui donne la nausée, le vertige. Les personnages qui l'entourent semblent avoir des visages en caoutchouc. Ils s'allongent, s'arrondissent, sans cesse. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'entend que la musique. Cette musique qui l'envahit, Et reste tout à la fois confuse. À la fin, la musique devient pour lui de plus en plus saccadée. Et confuse. La foule, les danseurs, le sortent du bal, le soutiennent pour qu'il descende les escaliers et le jette dans un fiacre. Voilà à quoi me fait penser la valse lorsque je l'écoute. Charles sourit. Cette description l'amusa. L'amusa beaucoup. Le monsieur sourit et lui dit:
vous devez me prendre pour une personne irrespectueuse, mais j'y suis pour rien. Cette œuvre musicale me fait penser à des scènes, à des images. C'est malgré moi, je n'y peux rien.
Cette franchise plut beaucoup à Charles.
Vous savez, jeune homme, je crois que vous avez suffisamment entendu de musique aujourd'hui. L'émotion, c'est bon, mais par petite dose. Ce soir, si vous le désirez, sortons. Avant la fin de l'entracte. Et ils sont sortis.
Le vieux monsieur demanda de quel côté allait Charles et lui proposa de l'accompagner. La nuit était noire, douce et calme. Les rues étaient désertes. Seul le bruit de leurs pas troublait le silence. Charles se sentait bien. Une douce musique envahit son âme. Pour la première fois, il se sentait bien avec une personne. Le monsieur était troublé et ému. La présence de ce jeune homme près de lui le gênait. Le monsieur lui dit:
il faut que je me présente. Je suis monsieur de Jean-Jus. Alexandre Jean de Jean-Jus.
Charles se présenta à son tour. Monsieur de Jean-Jus était issu d'une famille de haute noblesse. Il avait été élevé par sa mère, car son père était mort avant sa naissance. Comme Charles, son enfance avait été très solitaire. Maintenant, il vivait à moitié ruiné, car ne travaillant pas, il se contentait de vivre avec la fortune que lui avait laissée sa mère en mourant. Il avait vendu l'hôtel particulier de sa famille pour prendre un petit deux pièces où il avait entassé le plus de meubles et d'objets possibles. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.